Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Inondation des eaux du lac Albert en Ituri. Le bilan fait état de 10 000 familles sans abri actuellement en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. Les bureaux des services étatiques aux frontières sont délocalisés à Chomia et à Kasenyi. Les motos sont interdites de circuler au-delà de 22 heures au sud Kivu. Ainsi en a décidé le Conseil provincial de sécurité. Les véhicules avec plaque d'immatriculation temporaire sont également interdits. Notre invité, c'est le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation. Bertin Toumba Bouloulou explique ce que c'est la normalisation dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masserica, mise en onde de Willem Lungamba. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Au sud Kivu, les activités restent paralysées ce mercredi dans la cité minière de Mississi, en territoire de Fizi. Les habitants disent manifester pour protester contre l'instauration de la commune de Minembwe dans leur zone. Les activités commerciales et les transports en commun tournent au ralenti. Radio Okapi a joint sur place un membre de la société civile. Samuel Bin Ngoussou explique.
La situation de ce matin ici à Mississi est caractérisée par la manifestation de la nouvelle société civile. La dame qui a précédé la marche de la société civile avait rassemblé plus de personnes au parking de Douvira à proximité du marché Maendeleo ici à Mississi, pour dénoncer toutes tentatives de balkanisation en ce qui concerne la commune de Minembwe. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de foules pour attendre la matinée de ces mamans. En plus de cela, toutes les activités sont paralysées et sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas un mouvement de transport ici sur Vira, Mississi, dans d'autres endroits environnants Mississi. Donc toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Voilà la situation un peu à Mississi compte tenu de la manifestation.
En Ituri, pendant ces temps, l'inondation des eaux du lac Albert continue à faire d'importants dégâts matériels. Selon les services spécialisés, plus de 10 000 familles ont perdu leur maison en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. La plupart des bureaux des services étatiques œuvrant aux frontières sont également délocalisés à Chomia et à Kasenyi. Les victimes qui sont sans abri sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Faisons le point avec Isaac Remoyope.
Les eaux du lac Albert ont augmenté de volume d'environ 2,5 mètres de hauteur et ont progressé de 30 à 70 mètres vers la terre ferme depuis le début de l'inondation en décembre de l'année dernière, affirme le commissaire lacustre Oular Oudar. Selon les témoignages de certains habitants, c'est chaque jour que les eaux gagnent de l'espace en causant des dégâts importants. Le chef de groupement PNI rapporte que 25 maisons ont été détruites lundi à Datoulé après un vent violent qui a soufflé sur le lac Albert. Un centre de santé et la piste d'atterrissage des aéronefs de Maghiport sont engloutis par les eaux. Au total, plus de 10 000 personnes ont déjà perdu leur habitation dans plus d'une centaine de camps de pêche en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu. Certains bureaux de services de l'État sont également détruits. Il s'agit entre autres de celui de la Direction générale des migrations et d'hygiène aux frontières à Chomia qui sont actuellement délocalisés. D'autres bureaux sont devenus portatifs ou fonctionnent sous des arbres. Les victimes demandent au gouvernement de leur attribuer des parcelles et de les doter des tôles et des tentes pour la construction des abris. Elles ont adressé leur requête au ministre national de l'Agriculture qui s'est rendu la semaine dernière à Kasenyi. Bounia Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Revenons au sud Kivu où désormais la circulation des motos est interdite sur l'ensemble de la province au-delà de 22 heures. Ainsi en a décidé le commissaire provincial de la police nationale dans un communiqué rendu public ce mardi. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bernard Bazengue affirme que cette décision avait été prise lundi dernier lors du Conseil provincial de sécurité. Il parle aussi de l'interdiction de la circulation des tout véhicules avec plaque d'immatriculation temporaire. Il a été joint par Cynthia Bachizi.
Pour suivre la situation. région, nous sommes en train de vivre une recrudescence de criminalité. Alors, après examen et étude, nous avions décidé, au niveau du Conseil provincial de sécurité, pour que ces conducteurs moto ne puissent plus circuler à partir de 22 heures. Cela permet à nos éléments de la police ainsi que les forces de défense qui viennent en renfort pour les patrouilles nocturnes. Et à ce moment-là, ils entrent en action pour intercepter tous ceux-là qui sont suspects. C'est pour préserver la sécurité de notre population.
Concernant les véhicules qui sont immatriculés temporairement, beaucoup d'ONG circulent avec des plaques immatriculées IT, donc immatriculation temporaire. Est-ce que cette décision ne va pas un peu porter à confusion?
Ça ne va pas porter confusion, tout simplement parce qu'il y a un service de l'État attitré, la Direction Générale des Contributions, qui s'en occupe, qui doit aller là-bas pour régulariser. Et si jamais l'autorité provinciale pourra peut-être voir dans quelle mesure faire certaines exceptions, si possible. Mais en tout cas, la décision est d'ordre général.
Au Nord Kivu, un opérateur économique a été enlevé par des Maïmaï UPLC mardi sur l'axe Butembo-Mangouridjipa. C'est après la libération d'un autre enlevé par des Maïmaï de la résistance nationale lumumbiste. Ce dernier a été libéré après le paiement d'une rançon de $1,000. Ce nouveau mode opératoire préoccupe en ce moment la Fédération des entreprises du Congo FEC dans le secteur de Bapéré. Son vice-président appelle à l'intervention des autorités pour mettre fin à ce phénomène qui risque, selon lui, de paralyser les activités économiques dans la région. À Butembo, Grâce Amzadi.
La société civile de Mangouridjipa affirme que la première victime a été kidnappée par des maïmaï du leader 1000 tours par seconde le week-end dernier. Il s'agit d'un opérateur économique de Masangé, une bourgade agricole située à plus de 100 km à l'ouest de Butembo. Ces maïmaï ont exigé une rançon de $5,000 pour sa libération. Après négociation avec la famille de la victime, ils l'ont finalement relaxé moyennant $1,000, rapporte notre source. Juste après cette libération, un autre commerçant en partance pour Butembo est tombé dans une embuscade des Maïmaï UPLC de Josué Crocodile. C'était au niveau du village Kirea. Ces ravisseurs exigent également une somme faramineuse avant la libération de cet homme, rapporte la même source. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, en secteur de Bapéré, condamne ce nouveau mode opératoire des Maïmaï dans la zone. Vincent Melchior, son vice-président, appelle les autorités à vite intervenir pour mettre fin à ce phénomène. Contacté, le chef du secteur de Bapéré, Combiné Panepa, affirme que tous les Maïmaï qui n'ont pas adhéré au processus de DDRC annoncé seront neutralisés par les FARDC. C'est Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Et puis, en séjour à Goma, au Nord Kivu, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, en RDC, a rencontré le gouverneur du Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale, la société civile, ainsi que les responsables de la MONUSCO. Deux questions essentielles pour la diplomate britannique, notamment comment rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et quelle stratégie pour mettre un terme aux groupes armés. La Grande-Bretagne, en tant que bailleur de fonds, appuie aussi la santé et l'approvisionnement en eau potable. Madame Emily Maltman quitte la ville de Goma ce mercredi en principe pour Bounia en Ituri. Elle s'est confiée à Mathieu Ilunga Chamboui.
On a demandé plusieurs points et surtout la question principale, je crois, c'était comment nous pouvons tous travailler ensemble pour mettre fin au conflit à l'est du Congo. Comment est-ce que les groupes armés puissent finalement se rendre, se démobiliser et comment on peut aller sur le chemin vers la paix à l'est. Et on a parlé de la démobilisation, mais aussi la réinsertion communautaire pour ces anciens combattants. Mais nous pensons aussi, en tant que la Grande-Bretagne, que c'est important qu'on continue le combat contre l'impunité. Donc il faut aussi parler de la justice pour les crimes qui ont été commis. Donc je crois qu'il y a une discussion très importante d'avoir ici à l'est du pays, mais aussi au niveau du Kinshasa, pour qu'on élabore un plan que les bailleurs en tant que la Grande-Bretagne puissent appuyer. Comment est-ce que nous pouvons avancer vers la paix et la stabilité à l'est? Et je veux voir comment on peut travailler ensemble pour avoir plus de progrès vers la paix. Mais aussi, en tant que bailleurs de fonds, nous sommes impliqués dans beaucoup de programmes de développement aussi. Par exemple, l'approvisionnement de l'eau potable ici à Goma.
Autre nouvelle en plus bref, la marche pacifique de la Mouka a été dispersée par la police nationale ce mercredi avant midi ici à Kinshasa. En effet, sur appel de Martin Fayoulou, président de l'ECID, il a été question pour les manifestants de soutenir l'unité nationale et dire non à la balkanisation de la RDC. Commencée à la place Pascal, à la Tchangou, cette marche pacifique a été stoppée au niveau du pont Matete en descendant vers l'échangeur de Limété par la police nationale qui a usé des bombes à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Notons qu'à l'occasion, un pneu de la Jeep de Martin Fayoulou Madidi a été crevé par certains éléments de la police nationale pour empêcher sa progression. Une délégation de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire séjourne en ce moment à Kindu au Maniema pour identifier les filières à grand potentiel d'emploi. Annonce faite par l'assistant principal à cette cellule, Anaclé Chizanga, va échanger à Kindu avec les autorités locales, les responsables des ONG, la société civile et la Fédération des entreprises du Congo FEC. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
La CAPUDC a un système de renversement de la pyramide. Nous venons réfléchir avec les enfants du milieu pour pouvoir identifier avec eux quels sont les projets, quelles sont les filières à grand potentiel d'emploi par rapport à la population de la province du Maniema. Donc nous ne venons pas ici avec des projets dans les sacs en province de Kinshasa. Nous venons ici réfléchir avec les enfants du terroir pour qu'ils puissent eux-mêmes identifier et ces projets et qu'une fois ces projets réalisés, qu'ils puissent s'en approprier. Nous fonctionnons avec un système qui a trois procédures. La première procédure consiste à venir identifier les projets. La deuxième procédure consiste à venir en faire une étude de faisabilité et les plans d'affaires. Et la troisième consiste à organiser un forum au sein duquel il sera organisé un système de lever les fonds pour pouvoir financer ces projets qui seront identifiés dans les provinces. La province de Maniema, c'est la dernière des provinces à être visitée par rapport à ce genre de projet. Voilà pourquoi nous sommes là.
Le 15 octobre demain donc, c'est la journée internationale de la femme rurale. À cette occasion, Radio Okapi vous propose depuis ce matin une série de reportages consacrés à l'apport de la femme rurale à l'économie nationale. Dans cette édition d'information, nous nous rendons au Kasaï oriental où plusieurs organisations non gouvernementales sont unanimes quant au rôle vital que joue la femme rurale dans la stabilité de la sécurité alimentaire et la promotion de l'économie de la province. Explication d'Esther Ndalafina.
Les femmes rurales sont agricultrices, éleveuses, pêcheuses et chefs d'entreprise. Elles sont impliquées dans la production des cultures et des soins du bétail. Pour mesurer les degrés de cet apport de la femme rurale, rendez-vous au péage du pont Lobilanji. Sur 10 véhicules qui passent à ce poste, 7 transportent les produits vivriers, confirmation de Marceline Tanga de l'ONG ADEF.
Il y a les maïs, les poissons, les sacs de manioc, les oignons, tomates, les légumes, c'est toujours la femme qui amène ça.
Cette contribution journalière de la femme rurale améliore la sécurité alimentaire de toute la communauté. C'est ce que nous dit Dr Odette Kanyeba de la Division provinciale de la Santé.
Les aliments que nous cultivons ici sur place ne sont pas les aliments génétiquement modifiés. Donc ça nous apporte les protéines, ça nous apporte les lipides, ça nous apporte les liquides, les éléments nécessaires pour la croissance de notre organisme.
Bien qu'elle évolue dans l'économie informelle, la femme rurale est réellement celle qui apporte une contribution incommensurable à l'économie provinciale. Martin Tumba, coordonnateur du collège Saint-Léon.
Vraiment, elle contribue en payant les taxes, en payant les impôts.
Pour soutenir la femme rurale, plusieurs organisations non gouvernementales souhaitent que le gouvernement mette en œuvre des lois et des politiques afin qu'elle contribue sérieusement à une croissance économique inclusive. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Haut-Katanga où les cours sont suspendus dans toutes les écoles publiques de l'ICASI à partir de ce mercredi matin. La décision a été prise hier mardi au cours de la réunion de l'intersyndicale de l'enseignement primaire et secondaire. Les enseignants conditionnent toute reprise par la concrétisation des promesses qui avaient été faites par le gouvernement central. Ainsi, par solidarité avec les autres enseignants, notamment les nouvelles unités qui ne sont toujours pas payées. Des précisions avec le vice-président urbain du syndicat des enseignants des écoles catholiques, Étienne Kadi Chimona, a été joint par Jean Gandou.
Nous étions d'abord au cours le lundi pour annoncer seulement que nous sommes là pour respecter la date fixée par le gouvernement. Ce matin, les cours sont suspendus dans les écoles publiques à l'ICASI. Le gouvernement manifeste un geste de bonne volonté. Je crois que nous comprendrons à ce moment-là. Mais ce qui nous a mené à cette position un peu radicale, c'est que rien n'est fait. À ce moment-là, nous nous disons que le gouvernement a carrément failli à sa responsabilité. Si un geste est fait, la prise en charge de nos collègues, de nouvelles unités, le deuxième palier, à ce moment-là, le reste, on pourra toujours négocier. Sommes-nous conscients de la situation que nous avons traversée pendant un bon moment, mais nous nous disons que nos collègues MU, depuis que nous avons commencé l'année passée, on l'a terminé, ils doivent encore continuer cette année. Bon, on se demande comment est-ce que ces enseignants-là doivent vivre. Ce sont des pères de famille. Et c'est cette solidarité-là qui nous a amené à durcir un peu le temps. Parce que quand on parle de 250 $, c'est bien. Peut-être c'est utile. Mais nous avons des zones salariales. Ici, on touche 190 000 francs. 190 000 pour un père de famille en cette période. C'est un peu difficile pour qu'il vive.
Et puis, sachez que notre confrère Stanislas Kayungu Kalonda, décédé le 4 octobre ici à Kinshasa d'une courte maladie, a été inhumé mardi après-midi au cimetière Jeannette de la commune de Lukuba à Kalemie dans la province du Tanganyika. Stanislas Kayungu Kalonda nous quitte après 19 ans de loyaux services rendus à Radio Okapi en qualité de technicien de studio. Il a servi successivement au bureau de terrain de Kalemie, Dungu, Bunia et Beni, son dernier poste d'attente.
Actualité internationale.
Le président français va s'adresser à ses compatriotes ce mercredi à 20h à la télévision nationale pour évoquer la situation sécuritaire et économique du pays. Emmanuel Macron a jugé utile que sa parole était nécessaire alors que la France est entrée dans la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Pas d'allocution solennelle, mais de la pédagogie. Voilà ce qu'il entend faire pour expliquer aux Français la situation et ses enjeux. Alors que le nombre de malades de coronavirus en réanimation est au plus haut niveau depuis le mois de mai dernier. Au Mali, pendant ce temps, une position militaire à Soukoura, dans le cercle de Bankass, a été attaquée mardi soir par des terroristes. Le bilan dressé par l'armée nationale fait état d'un 9 morts et de quelques blessés dans ses rangs. Un renfort dépêché sous les lieux du drame est ensuite tombé dans une autre embuscade qui a fait 3 morts, 10 blessés et des disparus.
L'invité.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la normalisation. À cette occasion, les membres des organisations de la normalisation rendent un hommage mérité aux efforts déployés pour élaborer des accords techniques d'application volontaire. Pour l'année 2020, le thème retenu est protéger la planète grâce aux normes. Mais c'est quoi une norme? La réponse tout de suite avec le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation, Bertin Toumba Bouloulou, s'entretient avec Jacques-Yves Moulima.
Monsieur Bertin Toumba Bouloulou, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La journée mondiale de la normalisation, qu'est-ce qu'on célèbre?
On célèbre cette initiative heureuse qui fait que aujourd'hui le monde est plus sécurisé. Qu'avant.
Quand vous dites que le monde est sécurisé, ça veut dire exactement quoi?
Le monde a des outils pour sa sécurisation. Le monde a des normes. Des normes qui sont des documents établis par des experts du monde entier pour faire face aux problèmes de la société et anticiper sur les potentiels problèmes que le monde peut connaître aujourd'hui.
Mais pour le petit peuple, c'est quoi une norme?
Une norme découle de la prise de conscience et de la volonté de trouver des repères, des référentiels pour résoudre les problèmes qui se posent de manière récurrente dans la société. Je vais vous donner un exemple. Vous avez habituellement des routes qui, construites 2 mois après, elles s'abîment. Un homme consciencieux, une communauté consciencieuse réfléchit. En fait, on a gaspillé de l'argent. Pour éviter le gaspillage, on doit avoir des normes. On doit connaître la meilleure façon pour que ce genre de problème ne revienne plus.
Donc ça veut dire qu'on a des normes dans tous les domaines?
Aujourd'hui, on évalue à plus de 1 200 000 normes. Ça, c'est des chiffres donnés par une des plus grandes experts de la normalisation, Madame Claude Revel, en 2014. Il y a plus de 100 organismes internationaux de normalisation qui ont produit déjà plus de 1 200 000 normes. Mon cher, il y a des normes sur les cure-dents, il y a des normes sur les clés, Il y a des normes sur la part d'antifrice, comme il y a des normes sur les véhicules, sur les avions. Il y a des normes en tout.
Donc si je comprends très bien, une norme est donc un accord technique d'application volontaire.
Un accord technique d'application volontaire. Le processus d'élaboration d'une norme commence par l'expression d'un besoin. Une norme, on ne l'établit pas comme ça. Un besoin est exprimé. Il y a une nécessité d'avoir un référentiel.
Alors on revient en RDC. Est-ce que la République démocratique du Congo a ses propres normes?
Au Congo, il y a une structure qui a été créée, le Comité national de normalisation. Mais les choses ont tellement évolué que aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une proposition de loi. Mais cette proposition traîne à l'Assemblée depuis 2014. Ça fait donc 6 ans qu'on attend.
Alors, quels sont les avantages d'avoir une norme dans le pays?
L'avantage, c'est que vous avez un référentiel. Quand les étrangers viennent investir chez nous, il faut qu'ils se basent sur des normes congolaises. Les normes sont importantes parce qu'elles permettent d'avoir des produits de qualité, elles permettent d'éviter le gaspillage, une certaine lisibilité dans tout ce qu'on fait dans le pays.
Et l'inconvénient de ne pas avoir des normes dans le pays?
L'inconvénient, c'est qu'on a des infrastructures de mauvaise qualité. Vous voyez ça? Et la différence, je vais vous donner un exemple. Pour combattre les fléaux tels que les nuisances sonores, ailleurs on dit, la journée vous ne devez pas dépasser 55 décibels. Et la nuit, vous ne dépassez pas 45 décibels. Vous voyez ça? Chez nous, on dit seulement baisser le volume. Non, ça veut dire qu'on n'a pas des repères. Vous voyez ça? Ailleurs, il y a des normes sur le pain. On peut facilement contrôler. Et pour un pays comme le nôtre, c'est un outil important de cohésion nationale. Vous voyez ça? La norme devrait être un langage commun. Je donne un exemple. Vous mangez le foufou. Est-ce que tous les maniocs qu'on a dans le pays donnent la même qualité de foufou? Non. On devrait avoir des normes nationales sur le foufou. Qu'on sache quel type de foufou on a. Comment on doit les conditionner et tout ça.
Mais comment se fait que dans ces pays, on n'arrive pas à organiser tout cela?
Je vous ai dit que la démarche normative, par essence, c'est une démarche volontaire qui commence par une prise de conscience qu'il y a des problèmes qu'on doit résoudre. Ce que nous vivons aujourd'hui, moi et vous, par rapport au courant électrique et à l'eau, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous voyez ça? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait accepter une facturation forfaitaire? Vous avez le courant pendant 2 jours, on vous envoie une facture de tout un mois. Est-ce qu'on devrait, on doit continuer à accepter ça? Vous voyez ça? Nous devons prendre conscience que aujourd'hui le monde est ouvert. On vit dans le village planétaire. Bientôt, on va parler de la zone de l'échange continental. Hein? On doit être en concurrence avec tous les pays de l'Afrique. Nous, qu'est-ce qu'on a comme outil pour tenir face à cette concurrence-là?
Ça demande alors un leadership fort.
Moi, je dis une prise de conscience à tous les niveaux. D'abord, au plus haut niveau, au sommet de l'État. Les gens doivent prendre conscience que nous devons nous mettre tous à la norme.
Monsieur Bertin Tumba-Bololo, merci.
Merci.
L'invité de Radio Okapi ce midi, c'était Bertin Tumba-Bololo. Il est le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 12h22. Infiniment merci à Élisée Chikota-Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipela Mondo. Tout de suite, place au sport, le rendez-vous de Kanish Mukongo.